à tous et à toutes. Vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Une émission proposée par Radio Campus Amiens sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du slam avec Amine, Lily et Pauline de l'association des Maquisards de la Poésie. Les Maquisards fêtent leurs 10 ans cette année. C'est donc l'occasion de revenir sur leurs activités et leurs grands événements. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et me dire aussi quel est votre rôle au sein des Maquisards?
D'accord. Alors, je vais commencer. Mon prénom, c'est Amine. Mon pseudo dans le slam, c'est Mea Slam. Et au sein des Maquisards, j'ai la fonction de président.
Bonjour. Moi, c'est Lily. Je suis adhérente depuis 5 ans au Maquisards.
Du coup, moi, c'est Pauline. Mon pseudo, du coup, c'est Mandragore. Bah, là, pour l'instant, c'est surtout, bah, je vivote autour des Maquisards et je les ai rencontrés depuis 3 ans. Puis maintenant, je suis prisonnière et je pars plus.
Ça s'appelle Maquisard. Alors, pourquoi ce nom?
C'est parce qu'en fait, quand on commençait à s'organiser, c'était l'association initiale qui nous prêtait ses locaux. Donc, c'était un peu comme ça en sous-marin. C'était un peu underground. Un jour, il y a un monsieur qui était invité à une de nos réunions qui s'appelle Raymond Godefroy et qui nous a dit comme ça que ça lui évoquait justement les groupes de résistants, des Maquisards. Et donc, de là, on a fait le choix de s'appeler les Maquisards de la Poésie.
Depuis quand existent les Maquisards?
Alors, officiellement, l'association est née le 24 décembre 2014. Voilà. Et le projet, il a été amorcé en 2012, donc ça fait une douzaine d'années qu'on est sur ce projet-là.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les origines et les débuts des Maquisards?
C'est né d'une initiative de ma part, en fait. J'ai voulu créer un collectif comme ça, donc de 2012 à 2014, où j'ai essayé de faire un diagnostic de territoire, un peu savoir ce qui existait sur le slam, sur le département de la Somme et puis un peu Hauts-de-France. De là, j'ai constitué un groupe de personnes qui allaient faire en sorte que ce collectif devienne une association. Il y a pas mal de poètes et poétesses amiennois, abilloises, qui se sont révélés un peu. Donc il y a beaucoup de poètes qui sont passés depuis... Les événements et les scènes organisées par l'association, en fait.
Vous diriez que ce sont quoi les missions de l'association?
Les objectifs, c'était de vulgariser la pratique du slam sur le territoire, c'est-à-dire que voilà, ça puisse se démocratiser, puis que plein de gens puissent en profiter. Donc c'était aussi organiser un événement spécifique au slam et qui était un peu l'identité amiennoise. Et donc il y a eu un projet, un festival qui est né qui s'appelle le Slam à Robriva. Et puis surtout, c'était aussi participer à la formation, à l'accompagnement des gens sur les méthodes d'écriture active. En tout cas, on est sur des concepts de l'éducation nouvelle, au fait, au Maquisards. On est un peu une asso qui s'inspire des pratiques d'éducation populaire. Voilà.
Et justement, tu parles de projets et d'ateliers. Est-ce que du coup, tu pourrais m'en dire plus sur les ateliers que vous proposez au sein des Maquisards?
On propose des ateliers d'écriture de 22 mai sur 5 mercredis, comme ça, c'est échelonné, de 17h à 19h. Dans le cadre de la thématique des JO, se dépasser, se surpasser. Bon, par exemple, on accueille des gens qui souhaiteraient écrire sur la thématique. Et puis, au moment de la représentation, y a un temps comme ça où les gens viennent partager des textes qu'ils ont écrits en atelier. Donc ça, c'est une forme de collaboration. Selon les époques, on a pu collaborer avec le Micmac, on a pu collaborer avec l'Auberge de Jeunesse.
Parmi vos projets, il y a le Slam à Robriva. Tu pourrais m'en dire plus sur ce tournoi?
Il faut savoir qu'en France, en fait, y a le slam, c'est un mouvement comme ça, un peu hallucinant, là, depuis ces 10 dernières années. Il y a de plus en plus d'initiatives, donc... Il faut savoir que chaque ville organise en tout cas son événement. Donc nous, on voulait qu'il y ait un événement qui existe à Amiens. On a commencé sur un week-end. Et puis il y a eu des éditions où on a accueilli les gens sur toute une semaine. Et toujours donc en essayant de valoriser les pratiques artistiques et culturelles ici à Amiens, en collaborant avec les copains qui font la chanson ou autre. Et puis à côté de ça, c'était aussi permettre aux slammers qu'on pouvait identifier dans le réseau national et qui avaient aussi des spectacles à proposer, de venir aussi les jouer chez nous. Donc ça, c'était une chose. On a pu accueillir jusqu'à 100 personnes sur le festival.
Alors, vous allez participer au Slam National. Est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, combien il y a de Maquisards qui participent? Comment ça se passe comme ça pour la préparation?
En tant que Maquisard, c'est l'association qui organise. Donc, ce n'est pas toujours les Maquisards qui font partie des équipes. C'est des gens comme Pauline qui n'ont pas forcément cette étiquette-là, mais qui ont plus une étiquette de poète et poétesse amiennoise, qui a pris sa chance et puis qui s'est sélectionné. Donc il y a une règle du jeu qui détermine qui va être présent ou qui va représenter le Amiens et le Charleston. Par exemple, cette année, Pauline, elle représente aussi le Charleston. Lily est encore un peu trop jeune, mais l'année prochaine, elle sera au taquet, je pense, aussi, pour participer à ce genre d'initiative. Après, voilà, nous, les Maquisards, en fait, c'est vraiment l'association qui organise. Et après, les gens qui participent, c'est pas forcément des adhérents ou des gens qui se revendiquent Maquisards de la poésie, en fait.
Bah oui, puisqu'en plus, alors, cette année, c'est une année un peu spéciale, comme il y a deux ans, c'est qu'il y a une équipe officielle d'Amiens, donc le Charleston, et qu'il y a une équipe officieuse d'Amiens, qui est la Péniche Célestine. Et dans la Péniche Célestine, il y a quand même deux personnes de Beauvais, si je dis pas de bêtises. Donc au final, ça change à chaque fois. Parfois, on a des équipes des Maquisards. Il y a deux ans, il y avait une équipe complètement, c'était les Maquisards. Hein.
Ouais, mais ça, c'était une chose rare dans l'histoire de
l'association. Ah ouais, mais c'était beau à voir quand même. Mmh. Et puis là, cette année, bah, t'es dans l'équipe aussi du Charleston. Donc c'est vrai que c'est un beau mélange.
C'est des équipes de combien de slammers ?
Là, on est sur des équipes de, donc, du coup, de 4 personnes. Donc au final, il y a 8 personnes qui partent d'Amiens, plus Lily qui nous accompagne du coup.
Et vous devez préparer combien de textes ?
Alors, on est sûr tous de faire 2 textes, parce qu'en fait, on commence, c'est les 2 premiers jours, donc jeudi et vendredi. Il va y avoir chacun un passage. Donc on va être opposé à donc entre 3 et 4 autres équipes de ville. Chaque poète a un autre passage, affronte 3 autres poètes, donc si on part en 4 équipes, 3 autres poètes de 3 autres villes. Donc ça 2 soirs de suite. Et après, là du coup, il faut être qualifié. Il faut avoir 4 points maximum en fait. Le principe, c'est que si on est premier, le lendemain, on peut être maximum troisième, on a 4 points. Donc ça, on additionne les ordres de passage. Si on est deuxième, le lendemain, on est deuxième, ça va. Mais si on est quatrième dès le premier soir, on sait qu'on est perdant, mais on est bon perdant et on place notre texte à chaque fois. Puis ça nous permet aussi de participer, puisqu'après, il va y avoir les demi-finales et la finale donc le dimanche. Donc ça s'échelonne sur 4 jours. Mais on peut aussi participer à plein d'autres choses, puisqu'il va y avoir il y a une journée où il y a le slam des femmes, il y a un soir où il y a le slam érotique, il y a le slam des fiertés, il y a le slam des cris, le slam de haïku. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur Paris, puis c'est aussi l'occasion de retrouver les copains, faut le dire.
Vous avez des noms de scène ?
Oui.
Donc, Mea Slam et Mondragore. Comment vous avez choisi ces noms de scène ?
Alors, il y a aussi Lily, parce qu'elle ne l'a pas dit.
Moi, c'est la mom.
Bah, après, je ne sais pas, pour les copains, moi, à la base, c'était juste un petit clin d'œil, parce que je suis militant d'un mouvement qui s'appelle les CMA de Picardie, voilà. Et donc, à la base, c'était me dire, bah, si demain on me reconnaît, on pourrait dire, ah, t'as vu CMA, mais voilà, c'était juste le petit clin d'œil. Après, voilà, l'idée c'était de mettre du sens dedans. Je trouve qu'avec le temps, ben, ça me correspond bien. Je suis bien content de mon pseudo. Donc c'est l'âme en désordre parce que j'ai le cœur en discorde. Voilà. Donc après, les filles, je sais pas pour vous.
Alors moi, du coup, c'est venu avec la pression parce que je suis restée peut-être un peu plus de 6 mois sans avoir du coup de blaze. Et il s'avère qu'à un moment, c'était Petit Jean Moulin qui a animé une scène. Il y avait une autre Pauline, elle est venue me voir un peu paniquée en me disant « S'il te plaît, choisis un blaze parce que là, ça me saoule. » Et finalement, bah, Mandragore est venue. J'y réfléchissais depuis un moment, mais je n'étais pas sûre. Puis Mandragore, ça reste une plante qui existe et qui n'existe pas à la fois, puisque c'est une plante de fiction. Donc on a tous vu Harry Potter avec une plante qui hurle, mais c'est aussi une plante qui soigne et qui existe dans la vraie vie. Et bah, voilà, ça correspond à mon côté un peu sorcière.
Et bah moi, on m'appelle encore Lily sur les scènes. On n'arrive pas totalement à digérer mon blaze, on va dire. Mais la môme, en fait, sur une scène, j'ai demandé à Amine de me trouver un blaze, de m'aider à trouver un blaze. Et il m'a dit, la môme, ça tirait bien. Et j'ai rajouté un T. Et voilà. Parce que j'ai toujours été la plus jeune sur les scènes et de l'association. Donc... je suis un peu la petite sœur, donc la môme, ça me correspond bien.
Alors, comment est-ce que vous définiriez le slam ?
Au niveau de l'association, nous, on a si bien un truc, et je crois qu'on est les seuls à le dire comme ça, c'est que pour nous, le slam, c'est une matière. C'est comme on pourrait faire de la peinture ou autre chose, mais en fait, ce qu'on a défini dans le slam, c'est qu'il y a un aspect polymorphe, en fait. Il y a plusieurs entrées, et en plus, il rayonne sur plein d'aspects. C'est-à-dire, il y a une dimension universelle, parce que les codes... auxquels on joue tous les uns ici à Amiens, mais en France ou dans le monde, en fait, c'est les mêmes règles pratiquement du jeu. Donc il y a une codification comme ça qu'on connaît tous. Après, il y a un aspect éducatif, parce qu'on accompagne aussi les enfants dans l'écriture ou dans leur démarche d'émancipation. Il y a une dimension sociale parce que c'est peut-être un des seuls espaces aujourd'hui où il y a beaucoup moins de clivage que sur des scènes vraiment estampillées, telle ou telle couleur. Mais en tout cas, on est sur aussi une dimension intergénérationnelle parce qu'il y a tout âge. Lily disait qu'elle a commencé jeune, mais il y a aussi Ginou, je pense à Ginou qui a peut-être 70 ans maintenant. Je ne voudrais pas être impoli avec elle. Mais donc tous ces aspects-là nous font que le slam, c'est une matière qui permet le voyage. En tout cas, moi, je pense que j'ai jamais autant voyagé que grâce à la poésie. Et puis, y a cette dimension un peu, je penserais à Jean-Pierre Siméon quand il parle de la poésie s'ouvrant le monde, où il parle de la poésie comme quelque chose de rebelle, quelque chose comme ça qui doit interroger surtout les sociétés qu'on traverse. Et puis je pense qu'on est tous témoins d'une époque. Donc le slam, c'est un peu cette dimension de la poésie, mais beaucoup plus accessible et populaire. Voilà. Elle n'est pas institutionnelle. En fait, on n'écrit pas pour être lu, on écrit pour être entendu. Voilà.
Moi, je dirais que c'est pas forcément. Le slam, c'est un cri ou un vomissement. C'est pas forcément propre. Même si on joue souvent avec les rimes et les sonorités, c'est pas forcément beau, mais c'est quelque chose qu'on va partager avec les autres parce qu'on veut être entendu. Le slam, c'est vrai que moi, ça m'a surpris la première fois que je suis arrivée en scène slam de voir autant de personnes différentes. Puisque c'est vrai qu'on a tout âge là, normalement dans l'équipe on devait avoir Gérard qui n'est plus là, mais qui, je pense, est le doyen des scènes en ce moment sur Amiens. Le slam, je pense que c'est un cri, on faut être entendu, et je pense que tous ces codes qu'on va avoir, puisqu'il va y avoir toute une forme de code, de rituel, ça permet d'en faire quelque chose, un cri collectif. C'est une jolie cacophonie, en fait, d'une certaine manière.
Et en fait, surtout nous à Amiens, on a des grosses scènes de poètes où c'est pas noté, c'est pas dans les codes du slam à proprement parler. Donc à la base, le slam, c'est un tournoi, et nous tous les mois on a deux scènes maintenant avec le bar le Charleston et la péniche la Célestine. Et maintenant nos scènes, c'est toujours ouvert comme le nom, et surtout n'importe qui peut passer et s'exprimer. Donc oui, c'est comme, ils ont tout dit, en fait, c'est se libérer, c'est crier la poésie, en fait.
Comment elle est née, du coup, cette passion ?
En tout cas, moi, perso, j'ai commencé à écrire, je crois, j'avais avoir une quinzaine d'années, c'est quand j'écoutais Les Doors avec Jim Morrison, tout ça, donc tout ça, ça m'a donné envie d'écrire, Baudelaire, tout ça, enfin, voilà, je suis pas un très grand lecteur, et puis j'étais pas un très bon élève non plus. Mais je dirais que le slam, ça arrive quand je commence à entendre parler de Boomker, de Rachid Djaïdani. Comme ça, c'est un bouquin comme ça qui déjà impulse des choses. Mais après, c'est Dead Cabal aussi dans les années 2000. Après, donc il y a Bin Malik, il y a Grand Corps Malade. Donc c'est plus une culture un peu liée à la culture urbaine. Alors que le slam, il est pas vraiment la culture urbaine. Enfin, mais c'est né d'artistes ou d'influences, et puis surtout cette envie d'écrire. Donc après, c'est le chemin de l'écriture à l'oralité, donc des fois on écrit pendant des années, et puis après un jour on commence à dire, en fait.
Moi, du coup, là, je pense toujours écrit, peut-être commencé vers le collège, après j'ai eu des pauses, et puis c'est au lycée que j'ai recommencé à aimer la poésie avec ma rencontre avec Jacques Darras, du coup, qui est un poète vivant, d'ailleurs en interview. Quelques années plus tard, je lui ai dit, il m'a dit, ça s'est joué à ça. Bon, il l'a pris avec beaucoup d'humour, et en fait, c'est un poète vivant qui écrivait sur des choses qui n'étaient pas forcément déprimantes. Il écrivait sur la bière, sur les moules, sur le Nord, ce qui représente beaucoup pour moi. Du coup, j'ai continué à écrire, j'ai fait beaucoup les ateliers d'écriture du Crous. Puis j'ai commencé à écrire avec des copains, à écrire un peu, on appelle ça des ateliers pirates, c'est sympa, c'est toujours sympa puisqu'on en fait toutes les semaines. Puis après, en découvrant le slam à proprement parler, c'était avec Ange Gabriel, donc, et du coup par le biais du Crous, on est venu au Sense Slam, et puis je suis pas partie.
Et moi, c'est largement moins culturel, on va dire, mais j'ai commencé très très jeune, j'ai commencé au collège. Mais j'écrivais pas du tout. Et il y avait des ateliers avec des éducateurs d'une association à Amiens qui intervenaient au collège. Et il y a un éducateur précisément qui m'a repérée. Et en fait, j'étais une enfant pleine de rage. Et j'extériorisais rien du tout. Et il m'a dit, si tu veux autant t'exprimer, viens avec moi au slam sur un atelier le mercredi. Et je suis arrivée dans un atelier de d'haïku avec Spirou. Et bah, tout de suite, j'ai commencé à écrire et bah, depuis, je ne les lâche plus en fait.
Selon vous, quelles sont un peu les idées reçues sur le slam ?
Il y a toujours ce clivage entre le slameur et le poète, en fait. Il y a un peu le bon et le mauvais élève. Il y a un peu le registre des institutions et puis de l'école buissonnière, en fait. C'est toujours comme ça, un peu une confrontation. On est sur une pratique d'éloquence, donc c'est un peu particulier comme ça de dissocier les choses. Mais il y aurait un côté comme ça, comme peut-être dit Lily dans un de ses textes où... En fait, c'est un peu plus le babos, quoi. Tu vois, le slammer, c'est un peu plus le mec qui prend les choses un peu plus en dilettante. Mais non, en fait, c'est sérieux, ça reste quelque chose d'impliqué, c'est technique. Enfin voilà, c'est notre approche de l'écriture. On compte pas forcément les vers, on compte pas les pieds, on compte pas tout ça. On lâche un peu prise par rapport au code, en fait. Le slam, c'est sortir un peu des codes, en fait. Mais c'est la poésie.
Je dirais que la première chose quand je dis que je fais du slam, c'est « Ah du coup, tu fais comme Grand Corps Malade ». C'est une phrase qu'on va nous dire souvent, alors qu'au final, ce qui est beau avec le slam, comme c'est un cri, c'est propre à chacun, on ne va pas slammer de la même manière. Il y en a qui vont kicker, qui vont appuyer d'une certaine manière, il y en a qui vont déconstruire, il y en a qui vont, sortir leur rage. Je pense que je fais partie de ces gens-là à certains moments, souvent. Il y en a qui vont être beaucoup plus mélancoliques. Il y a mille manières de slammer comme il y a mille manières d'écrire. De toute manière, je pense que le slam, c'est une poésie qui a choisi de gueuler. De toute manière, c'est une poésie qui va s'exprimer de cette manière là c'est vrai que les poètes qui ont jamais slammé en fait ont beaucoup de mal à l'appréhender. Je l'ai vu et je le vois toujours. De toute manière, j'arrive à convaincre des poètes, et ça c'est beau, parce que en fait les poètes, quand ils assistent vraiment à une scène ouverte et ils assistent vraiment à un tournoi, parce qu'il y a aussi les poètes qui ont peur des tournois et le slam, parce qu'ils trouvent que du coup il y a beaucoup de jugement puisqu'il y a des notes. Sauf que dans le slam, on le dit et on le répète, un poète ne gagne jamais. C'est le principe. De toute façon, on dit des notes, on finit une scène, on a déjà oublié le classement, parce que de toute manière, qu'est-ce que ça nous apporte en fait ? Et récemment, j'avais animé une scène, il y a beaucoup de poètes qui étaient présents et s'y sont rendus compte, mais en fait c'est trop bien. On avait à peine dit la gagnante qu'au final tout le monde parlait entre eux. Il y a les slameurs, les poètes, les personnes qui avaient l'habitude des scènes ouvertes et puis qui venaient sur une autre genre de scène ouverte. Tout le monde parlait et c'est là qu'on se rend compte que le slam en fait c'est juste une manière de crier mais surtout d'écouter.
Et quand Pauline dit ça, c'est que c'est le meilleur poète ne gagne jamais. C'est-à-dire qu'on est sur une désacralisation du champion ou de la championne, au fait. Et comme le dit si bien Pauline, c'est plus l'aspect de la communauté. Parce qu'il y a vraiment. C'est pas communautaire, c'est une communauté de gens qui aiment se retrouver. Et puis, donc, il y a une règle du jeu, comme tu disais tout à l'heure aussi, Pauline, sur des rituels. Un temps imparti, un jury populaire quand on est dans le slam, donc dans ce schlem-là. Enfin voilà, il y a toute une codification qui permet une forme d'équité, en fait, en tout cas dans le temps, un parti à chacun pour prendre la parole. Et puis comme c'est bonne ambiance, après, des fois on ne se rend même pas compte les notes qu'on peut faire, en fait. Voilà.
Tu as un peu esquissé la question, Pauline, mais quel conseil, du coup, vous donneriez à quelqu'un qui aime le slam, mais qui a peur d'aller comme ça à des scènes ouvertes ou qui a juste peur, limite, de dire les textes, mais qui aime bien écrire, par exemple?
Bah, franchement, moi, je dirais saute. Parce que il y a rien à perdre. Moi, au début, la première scène, je devais venir le mois d'avant, mais j'osais pas venir parce que déjà je connaissais pas Ange Gabriel, on n'avait pas commencé les cours, je sors pas dans les bars non plus, donc. Mais finalement, c'était une super expérience. Je vois là, moi j'ai embarqué des copains qui viennent écouter, puis là il y en a un qui a franchi le cap là il y a le mois dernier, là il a déjà fait deux scènes et franchement on commence à gratter, on se rend même pas compte quand on monte sur scène. Même après on m'avait Amine m'avait chopé un moment à la fin d'une scène, il m'avait dit apprends tes textes.
Alors que je le fais pas.
ouais non mais apprends tes textes, je pense que ça fait bien. Alors la première fois que j'ai appris un texte, je me suis plantée, j'ai eu un bug et mes mots ne sortaient plus. Mais il y avait beaucoup de bienveillants, je me souviens de Clé qui était devant qui fait "Oh elle est mignonne, t'inquiète pas, ça va aller." Et finalement ça a été, on se rend compte que même si tu oublies ton texte, même si tu sais plus quoi dire, alors Moi maintenant j'improvise, je me suis rendu compte que bon, il n'y avait rien de mieux que l'impro, hein. Mais qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait. Je me souviens de certains slammers, voilà, on arrive avec une guitare, forcément c'est un peu compliqué pour tenir les feuilles, on va trouver un moyen, même si on se plante, les gens sont là et puis en fait il y a toujours beaucoup de bienveillance de toute manière. Puis bon, si on vomit, ça éclabousse.
Oui, surtout sur nos scènes, ouais, c'est la bienveillance en fait qui fait venir autant de monde, je pense. Au début, quand on commence à arriver sur la scène, c'est impressionnant parce qu'un public, le bar, il est très petit. Et à chaque fois, on est très très serré, donc c'est un gros public. Enfin, on arrive sur scène, certains ont des textes qui parlent d'eux au plus profond. Et c'est compliqué de se délivrer, de se mettre à nu devant tout un public. Et en fait, il faut déjà slammer pour soi avant de déclamer tout au public. Il faut vivre son texte.
Et pour conclure, moi je dirais que il y a un voyage avec soi en fait. Le slam s'invite à voyager avec soi dans son intérieur. Et puis donc ça appartient à chacun. En tout cas voilà, ça permet un peu comme un effet miroir sur soi. On peut entendre des fois aussi cette notion de performance. En tout cas quand je peux dire à Pauline apprends tes textes, c'est pas forcément comme une injonction et surtout pas, c'est plus une invitation à elle. Peut-être qu'on peut comprendre des choses de l'extérieur, c'est pour ça que des fois on peut inviter, en tout cas c'est plus c'est même pas du conseil, c'est une invitation.
Mais c'était une très bonne invitation, je le regarde pas, t'inquiète.
Et en tout cas après chacun se révèle au fait, après ça c'est la temporalité, l'exigence, c'est pas à nous de la décider, c'est vraiment la personne qui doit à un moment donné se regarder elle-même et puis s'accorder ça, et donc c'est comment j'ai envie de m'émanciper et puis comment j'ai envie d'être un peu plus libre au fait. C'est un peu ça aussi.
Est-ce que vous avez un slam avec vous ?
Du coup, moi j'en ai un sur les maquisards. C'était sur les 10 ans. Rentrer dans l'intimité du poète. Trouver d'où viennent les références dans chaque texte. Comment trouve-t-il ses thèmes ? Est-ce qu'on met des rimes à chaque histoire qu'on se construit dans la tête ? C'est chaud de mettre un visage, une voix, un flow derrière un poème. C'est la surprise à chaque nouvelle tête, même si le portrait se répète. C'est vrai, la caricature du slammer reste la même. On a rajouté un sarouel et des tongs sur les photos d'Apollinaire. Et ouais, sur nos scènes, c'est avec des Nike et un bédo que slam Baudelaire. Plus sérieusement, de nos scènes, on peut en être fiers. Ici, toutes les générations défilent et s'investissent pour le même frère. Les yeux qui brillent font sa poésie comme piqûre de rappel, histoire de ne pas oublier qui tenait le maquis hier. C'est important de poser le cadre pour mieux rentrer dans l'intimité du poète. Venez jeter un coup d'œil à travers ma fenêtre, voyez comment je vis, comment j'écris, comment je m'exprime avec les rimes, moi je me délivre. Et je pense aux copains d'ici. Comme un coup de cœur poétique, en plein moment de vide, c'est comme si votre côté humain était venu chuchoter sa poésie aux oreilles du mien. Entre une déclaration ou des rimes, j'ai pas su choisir et c'est pour ça que je vous écris. Loin d'avoir le même âge, mais le cœur se ressemble. À vos côtés, je deviens là, petite sœur, et c'est comme ça qu'on se comprend. Et toute seule dans ma grande cabane, je me suis souvent demandé, mais qui m'entend ? Et votre portrait se dessine. Dans ce bar, ce soir, en vrac, je crois que j'y ai trouvé ma place. Ça y est, j'y ai posé mes bagages. Maintenant, je me présente comme celle qui slame, et je me surprends même à en être fière. Ce soir, on m'a même fait gagner le concours. C'était pour Le Havre. Alors si t'hésites, si ton pas tremble devant la scène, si ton cœur bat en tombé par terre, si tes entrailles te serrent, je crois que t'es prêt. Ouais, je le sens d'ici ton stress, je les entends tous tes doutes, je le connais ce mal-être. T'es prête? Alors monte et rejoins les fous. Allez, allez, rejoins-nous. Et je te promets que plus jamais tu ne rateras ce rendez-vous, même si les yeux sont un, enfin par deux, quatre, six, même mille. C'est des milliers de merci à ton toi du passé d'avoir laissé place à ton bien-être rimé. Tu veux connaître la famille? Ici c'est le maquis. Maquisard jusqu'au bout, vieux ou petit frère vient t'armer de poésie. C'est comme ça qu'on résiste à la monotonie d'une vie de routine. Maquisard, je t'aime et c'est ici que je me livre. Maquisard, avec toi, je vis.
Yeah, lourd.
Alors moi, je m'enchaîne avec un texte qui s'appelle Ramiro, donc pour un poète qui a découvert d'ailleurs les scènes slam il n'y a pas longtemps. C'était peut-être le dernier combat, peut-être le dernier round, peut-être le dernier ring, peut-être le dernier revers, peut-être la dernière esquive, peut-être le dernier jet. Alors il sortit sa plume. La sève coule de la pointe acérée, sève noire, sève collante, sève en déboire et en attente, le stylo goutte, les dés jetés. Armé pour l'instant, le poète virevolte avec le vent. De l'encre noire plein les dents, les doigts, la bouche, il goûte son sang. Il est l'homme, il est l'arbre, il est l'enfant et puis la rage. Il est ici mais aussi loin, il est présent déjà passé. feuillage acharné, les mains encarnées, son sang et encre, sa chair. Papier, c'est dans son ventre que tout se fait. Les tripes bouillonnant en passion, il préfère se battre que la prison, prêt pour le combat. La relève est là, à elle, goûtant lave brûlante de ses mains en sève hurlante et corrosive en encre en poids, en poète arbre. Les mains tremblantes, les branches agiles. Il a trop peur d'être immobile. La fougue l'habite, pas la jeunesse auquel il pense avec tendresse. Ses racines poussent avec vigueur. Ses racines poussent malgré son cœur. Ses racines poussent fond de la terre qui de son sang se désaltère. Il est l'homme, il est l'arbre, il est l'enfant, il est la rage, il est la graine et le terreau, il est la pluie, l'eau, la vie et le poète. Le sang en sève. En encre et en idée, la chair lambeau, la chair papier, enracinée mais pas sciée, c'était peut-être son dernier combat, c'était peut-être son dernier ring, son dernier ronde, mais sûrement pas son dernier souffle, son dernier vers. L'arbre poète, le poète arbre, n'a toujours pas dit ses derniers mots.
Yeah.
Merci beaucoup pour ce partage et merci aussi pour cette interview.
Merci à toi.
Bah merci Romain.
Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc sur, par exemple, donc là, comme l'a dit Pauline, on part jeudi, donc avec deux équipes, une pour Bourdon et une pour Amiens, donc une pour la péniche Célestine et une pour le Charleston. Donc on sera sur Paris du 8 au 12 mai. Après, la prochaine scène slam, c'est le 14 mai au Charleston. Il y aura un atelier d'écriture ouvert à tous et c'est gratuit. Si les gens veulent venir s'essayer, c'est de 17h à 19h, 19h30 et c'est en échelonné. Et après, il y a un rendez-vous aussi donc, le 22 mai au Safran. On commence donc ce projet autour de se dépasser, se surpasser dans le cadre des JO. Donc on peut réinterroger tous ces aspects-là aussi. Donc ce sera de 17h à 19h, donc au Safran à partir du 22 mai pendant 5 mercredis. Et la prochaine scène à la péniche Célestine, c'est une scène ouverte et ce sera donc le 23 mai. Voilà. Juste et une dernière chose, une petite pensée pour quelqu'un qui nous a quitté hier et qui est quelqu'un qui est important dans la communauté du slam. Donc un big up à Magnès, voilà, paix à son âme. Le Havre, elle lâche pas l'affaire.
Cette interview s'achève donc en poésie. Pour rappel, Amine, Lily et Pauline des Maquisards de la Poésie sont venus nous parler des activités de l'association. Ils participent notamment au Grand Poétrie Slam qui a lieu du 6 au 12 mai 2024 à Paris. Le tournoi sera d'ailleurs diffusé en live sur les réseaux sociaux et les vidéos de présentation des poètes sont disponibles notamment sur leur page Facebook et Instagram. Par ailleurs, les Maquisards organisent des scènes ouvertes le 14 mai au Charleston et le 23 mai à la péniche Célestine. Je vous propose de terminer cette émission avec le troisième épisode de la série « L'électrosimulation est-elle du sport ?» réalisée par Colline Fauvet, étudiante en Master 2 journalisme de l'UPJV. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur l'antenne de Radio Campus Amiens.
On se retrouve dans ce nouvel épisode sur l'électrostimulation, également appelée EMS, pour parler nutrition. Pour un mode de vie sain, il faut pratiquer du sport et manger équilibré. Pour l'EMS, c'est pareil. Allier sport sans effort et repas équilibré, le coach sportif Marc Delporte nous explique.
J'ai mes bras qui bougent,
voilà, c'est ça.
Et j'ai la cuisse qui brûle.
Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment ? Une séance de musculation.
Vous aussi, vous voyez passer des images d'athlètes avec des drôles de fils branchés partout sur le corps.
Qui m'enfile une combinaison pleine d'électrodes. Et c'est parti pour une séance d'exercice de 20 minutes.
On a mouillé le maillot, se met au courant cette semaine en s'essayant à une discipline prisée, l'électrostimulation.
Vous avez testé l'électrostimulation musculaire. Ça sert à quoi votre truc ?
Vous avez raison d'insister sur la nutrition parce que c'est une des clés principales, voire la clé principale pour avoir un changement morphologique. Alors souvent, on fait du sport la plupart du temps, 90% du temps, c'est pour maigrir, hein, faut pas se cacher, ou pour se tonifier, se muscler. Donc l'alimentation là-dessus, sur ces objectifs, est primordiale. C'est pareil, il n'y a pas de recette miracle et on est tous différents. différents. Il y a des, on va dire, des règles à adopter qui paraissent évidentes, mais qu'il faut rappeler. Manger moins de sucre, ne pas manger trop gras, manger des bonnes graisses, pas de mauvaises graisses, manger le moins transformé possible, manger équilibré, c'est-à-dire avoir toutes les vitamines, les minéraux, bien boire, le sommeil aussi est très important. Voilà, ça c'est les bases qu'il faut toujours rappeler. Après, on va partir sur l'individuel, c'est-à-dire en fonction de votre métabolisme, en fonction de vos objectifs, en fonction... Voilà. Donc là, un professionnel est là pour vous accompagner toujours, parce que c'est assez difficile finalement quand on a besoin. Alors là, je parle vraiment pour les gens qui ont besoin d'un changement morphologique, on veut perdre 10 kilos, on veut prendre 5 kilos de muscle, on veut... voilà, c'est... quand on veut vraiment des résultats importants, des bons résultats, il faut être accompagné. Ça peut être votre coach s'il a des compétences dans le domaine, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un professionnel de santé, quel qu'il soit, ça peut être votre médecin traitant, etc. En tout cas, il faut être suivi, il faut avoir des bons conseils à ce niveau-là. Et c'est primordial. Pour avoir des résultats, il faut associer l'alimentation à l'activité physique.
Finalement, l'accompagnement est un point clé pour réussir à obtenir les résultats que l'on veut et apprendre à bien manger, que ce soit avec ou sans EMS.
On a la chance de pouvoir être aidé par des professionnels. Je pense aux nutritionnistes qui font un boulot formidable. Quand vous voulez perdre 10 kilos et que vous n'y arrivez pas, bien sûr qu'on commence par essayer tout seul. On commence par manger plus sainement, bouger un peu plus, etc. Mais quand on est bloqué, qu'on n'a plus les clés pour avancer, on a des professionnels qui sont là pour ça. Et il faut se faire aider, bien sûr. C'est important. Et la nutrition, c'est la clé principale. Vous voulez, y compris pour, par exemple, la prise de masse musculaire, quelqu'un qui veut se muscler, un jeune homme qui voudrait se muscler, il va à la salle 3 fois par semaine, il a des bons résultats au début, puis il stagne. À un moment donné, il va falloir jouer sur l'alimentation, notamment un peu plus de protéines de bonne qualité, peut-être jouer sur le sommeil, peut-être jouer... Et là, il va falloir qu'il se fasse accompagner s'il veut des résultats plus intéressants. Et c'est pareil pour l'amincissement. On va toujours y arriver. Au début, vous allez perdre 2-3 kilos parce que vous avez changé un peu votre rythme de vie, vous avez supprimé le coca, voilà. Vous vous mettez à courir le dimanche matin, vous arrivez à perdre 2-3 kilos, après vous stagnez. Bon, bah, pour trouver d'autres clés, il faut se faire aider. Peut-être prendre un coach sportif qui va vous aider, vous proposer une autre activité physique. On revient sur l'EMS, par exemple, qui pourrait aider, ou autre chose. Un nutritionniste pour jouer sur l'alimentation. Et en fait, toutes ces petites clés vont vous permettre d'aller plus loin dans vos objectifs.
Un mot pour terminer ?
Le tout, c'est de bouger. Bouger au maximum et le plus régulièrement possible.
Merci beaucoup Marc Delporte pour ces réponses. On continue demain avec un nouvel épisode sur les contre-indications de l'électrostimulation.